Avant Agée, tous les prophètes ont annoncé l'exil babylonien. Mais Agée, il parle du point de vue de quelqu'un qui a vécu le retour. En fait, il est de nouveau en Israël, à Jérusalem, lorsqu'il écrit ces choses. Alors, c'est toute une nouvelle vision sur le monde. C'est toute une autre vision prophétique. Ce n'est plus le prophète qui dénonce toutes les nations et qui a un texte assez lourd et pessimiste sur la fin parce que la nation n'est plus le même non plus. Ce n'est plus un groupe de personnes qui s'éloignent de l'Éternel, qui sont profondément éloignées dans le péché. Non, ici, cette fois-ci, c'est des gens qui sont pratiquement les meilleurs. Ce sont ceux que Dieu, en fait, a envoyé en Babylone pour qu'ils soient protégés de la pourriture spirituelle de ceux qui restaient, qu'il les gardait pour qu'il les ramène à nouveau à Jérusalem. Et c'est de ces gens-là que le Messie vient. Notamment de Zorobabel, leur chef. Il est dans la lignée de David. Il y a donc Zorobabel, dont le nom veut dire sortir de Babel. Et il y a aussi un autre chef qui est le souverain sacrificateur qui s'appelle Josué. Zorobabel prend plutôt la première place ici dans Agée, mais en Zacharie, nous verrons peut-être plus Josué. Alors, avec ces dernières trois livres de l'Ancien Testament, Agée, Zacharie et Malachie, il est bien de lire aussi, dans votre temps à la maison, les livres d'Esdras, Néhémie et aussi Esther. En fait, si vous voulez être peut-être le plus chronologiquement correct, ça serait mieux de lire Esdras, Esther, puis Néhémie. Mais bon, si vous suivez ce qui est dans la Bible, donc c'est Esdras, Néhémie, Esther. Alors, pour ce que nous allons voir ce soir, qui est Agée, qui ne comporte que de deux chapitres, il y a quatre prophéties dedans, mais il y a un seul thème. Le thème, c'est la construction ou la reconstruction du temple. Agée, dont le nom veut dire joyeux ou celui qui festoie, on pense qu'il est en fait né peut-être pendant une fête. Et nous allons voir que ces prophéties tournent autour de la fête des Zutes, ou des tabernacles. Alors, vite fait, qui se rappelle qu'est-ce que c'est cette fête, la fête des Zutes ou la fête des tabernacles? Oui.
Enfin.
Oui. Oui, donc voilà, effectivement, si on a une maison avec une toit, donc on construit un cabane, effectivement, et on habite là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on habite dans la cabane? Oui, effectivement, pour se souvenir des années dans le désert. Enfin, il y a plein de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons parler de cette fête pendant toute la soirée, ce qu'on n'a pas à faire, mais il y a une grande signification, bien sûr, prophétique de cela. Et nous allons voir ces sens aussi, ces significations vis-à-vis de ce qui est dans notre livre. Alors, parce que Agée parle de la vie spirituelle, il est essentiel que nous révisons rapidement ce qui s'est passé en Esdras qui a provoqué ces prophéties. Sinon, elles sont belles, mais il n'y a pas beaucoup de sens. Alors, première chose qui arrive, Esdras chapitre 1, c'est que le roi Cyrus, comme ça a été prophétisé par le prophète Ésaïe des centaines d'années avant sa naissance, il donne le décret pour que Israël revienne à Jérusalem. Tous ceux qui le veulent, ils le peuvent. Et pas seulement ça, il redonne tous les trésors que les Babyloniennes ont enlevés. Et il ajoute un peu plus. Alors, il n'y a pas tout le monde qui revient en fait. Hein? Il y a même moins que 100 000 personnes qui reviennent. Mais il revient quand même. Il s'installe. Et Ezra chapitre 3 nous parle d'abord de ce qui se passe. La première chose qu'ils le font, et il se trouve que c'est le jour où commence la fête des tabernacles. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils construisent un autel. C'est la première chose qu'ils font. Alors, à votre avis, pourquoi construire un autel tout d'abord? Exactement. Exactement. Pour glorifier Dieu, pour rentrer aussi en contact avec lui, parce que Dieu est saint. Et on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Il faut être pur. Comme il est saint, il est dit dans la loi, il veut aussi que son peuple soit saint, qu'il soit sanctifié. Et l'autel est le commencement de tout ça, parce que c'est là où ils offrent le sacrifice pour le péché. C'est là aussi où ils offrent les sacrifices du matin et du soir. C'est là où ils offrent aussi le sacrifice pour le peuple, enfin pour le roi, pour tout, pour tout. C'est là où ils entrent en communion avec Dieu. Première chose, c'est essentiel, c'est la restauration de la vie religieuse à ce moment-là. C'est aussi la réconciliation visuelle, physique, avec Dieu et son peuple. Il commence ensuite à construire ou refaire les fondations du temple. Un temple, ce n'est pas comme nous pensons à une église, un bâtiment qu'on appelle l'église, c'est là où les gens se rassemblent. Alors qu'un temple en Israël, le temple c'est là où Dieu réside. Donc il y a une grande différence entre ces deux idées. Ils recommencent, première chose qu'ils font, ils recommencent à faire les fondations, mais ils ont des problèmes. Les Samaritaines ou les gens du pays, ils veulent aussi aider, mais ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de cette même idée, cette même croyance. Et alors, les Israélites ne peuvent pas accepter qu'ils construisent une chose sainte, le temple du Dieu vivant, s'ils n'y croient pas. C'est une contradiction, ça va souligner justement ça, mais bon, c'est très mal pris. Et en fait, ils cachent d'autres intentions derrière ça. Et ils écrivent des lettres au roi, et le roi arrête les travaux. Et les travaux s'arrêtent pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, chapitre 5, tournez, s'il vous plaît, Ezra 5, parce que c'est là où nous commençons notre histoire, à peu près. Le prophète Agée et le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadok, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. En fait, les prophètes se lèvent du nos deux livres, Agée et puis Zacharie, mais les prophètes se lèvent et bâtissent aussi avec les autres. Puis commence aussi le petit détail avec le roi, il règle ça. Mais ça, c'est en gros ce que nous avons devant les yeux. C'est donc des belles prophéties concernant l'œuvre de Dieu. Et ça nous montre que nous pouvons entendre la parole de Dieu, Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous sommes, comme il est dit en Jacques 1, verset 24, des gens qui se regardent dans le miroir de la loi et qui sont oublieux tout à coup et puis nous partons? Si c'est le cas, le livre d'Agé ne serait pas écrit. En fait, parce que ils écoutent et ils mettent en pratique la loi, il y a plus de révélations. Parfois, ils tombent, ils trébuchent, ils reçoivent encore la parole et ils s'avancent. Finalement, les Israélites en Israël à cette époque sont plus ou moins des gens comme vous et moi, très humains. Mais la grande question à se poser, c'est quand j'entends la voix du Saint-Esprit au travers de la parole et je sais que Dieu me parle, est-ce que je mets en application, est-ce que je l'applique à ma vie? Et voilà un petit peu une introduction que nous pouvons faire d'Agé. Aussi, juste entre parenthèses, j'ai remis sur notre site, qui est peut-être à 60% près, mais j'ai remis l'introduction que nous avons faite il y a un peu de temps maintenant sur tous les petits prophètes, juste pour vous rappeler un petit peu. Bon, fermons les parenthèses. Et ça, c'est sur le rubrique média, je crois. Agé, chapitre 1, verset 1. La douzième année du roi Darius, le sixième mois du premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yahotzadak, le souverain sacrificateur, en ces mots ainsi, par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Première chose remarquable dans ce passage, c'est la première fois où il y a une prophétie, enfin chronologiquement parlant, je veux dire, où il y a une chronologie basée sur une date païenne qui marque toute une autre mentalité. C'est un peuple humilié qui revient. C'est un peuple aussi qui dépend plus sur Dieu que jamais. Mais c'est aussi un peuple qui attend le Messie qui revient et qui sont peut-être plus prêts à vivre cette idée de lumière pour le monde, mais qui doivent aussi s'occuper de certaines choses. Par contre, ils se sont arrêtés. Et on se rappelle pourquoi ils se sont arrêtés. Il y avait la raison officielle, l'édit du roi. Mais, pour vous qui avez étudié le livre d'Esther, vous savez que, selon les lois des Mèdes et des Perses, qu'on ne peut pas changer l'édit du roi. Alors, cette excuse qu'ils avaient, ce n'est pas tout à fait valable. Ils pouvaient continuer, ils pouvaient le rejeter et faire appel aussitôt. Et c'est quelque chose qu'ils font plus tard. Mais peut-être, il y avait d'autres raisons. Et des raisons que nous connaissons tous. Des raisons de fatigue. Est-ce que ça vous est arrivé justement de savoir que Dieu vous a donné quelque chose à faire? Où il y a quelque chose en vous que vous savez que vous voulez faire pour Dieu. C'est comme un projet sur votre cœur. Et puis, comme il y a obstacle après obstacle, je ne parle pas des portes carrément fermées, mais suffisamment de résistance que ça vous fatigue. Jusqu'à ce que vous vous arrêtez. Et ça arrive. Ou bien, vous commencez à vous lancer et à vous avancer pour le Seigneur, et puis vous rencontrez une opposition forte. C'est spirituel, et c'est carrément sur tous les coins. C'est comme une pression qui veut vous arrêter sur champ. Et tout ce que vous faites, c'est simplement suivre le Seigneur. Est-ce que vous vous êtes arrêté à cause de la peur ou à cause de, tout simplement, une lassitude vis-à-vis de l'opposition? C'est probablement ça qui, finalement, avec cet édit du roi, des gens, ils ont dit, ben, bon, Dieu, on a essayé, on a fait quand même ça, et ça doit suffire. Et puis, le Seigneur, dans sa patience, a laissé écouler le temps. Et même dans ce petit mot qu'ils disent, le temps n'est pas venu. Puis en mai, c'est comme on met à côté les plans, en disant, oh, peut-être Dieu va m'ouvrir une porte. Oh, peut-être plus tard, ça va être plus facile. Oh, peut-être, peut-être, peut-être. Et le temps passe très vite quand on est dans le lieu des peut-être. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est en ruine? Oh, ça fait mal. Le Seigneur, il joue de leurs propres mots, en fait. Eux qui disent, bah, peut-être c'est pas le temps. Le Seigneur dit, bah, d'accord, évidemment, vous faites quelque chose. Et si ce n'est pas pour le Seigneur, bah, c'est pour vous-même. Et puisque vous ne trouvez pas le temps de faire ce que vous devez faire pour le Seigneur, est-ce que c'est donc le temps de faire tout ce que vous voulez pour vous-même? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup sémé et vous avez rapporté peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas votre soûl. Vous êtes-vous vêtu sans avoir chaud? Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. On dirait qu'ils sont dans une récession. Le Seigneur, en fait, il les a mis dans une circonstance où rien ne va, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils devaient faire quelque chose et ils le savent. Oh, peut-être ils disent, oui, mais ça fait un moment où je n'ai pas entendu la voix du Seigneur. Et donc, ce n'est peut-être pas le temps. Or, le Seigneur était très clair et il les a donné une parole. Et sa parole n'a pas changé. Il n'a pas changé d'avis. C'était toujours le même. Bâtir la maison. Et c'est juste pour ça qu'ils devaient continuer dans l'appel où ils étaient jusqu'à ce que Dieu leur dise quelque chose. Et là, nous voyons que Dieu dit quelque chose. Mais son message n'a pas changé. Il confirme l'ancien appel où ils devaient continuer. Et le fait qu'ils résistent, ben Dieu, il est en train de les attirer leur attention, de les secouer un petit peu. Il utilise peut-être la chose qui nous bouleverse ou qui nous touche le plus profondément, les finances, notre bien-être. Et il dit, réfléchissez un petit peu, réfléchissez, pensez à ce qui se passe. Parce que c'est vrai, ils peuvent s'aimer et avoir certaines récoltes, il peut avoir quelque chose qui se passe un moment ou un autre, mais de continuer à tomber de plus en plus bas, peut-être il y a quelque chose. Et puis il répète, réfléchissez à votre conduite. Verset 7, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est en ruine. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur tout produit, le sol, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Alors faites attention, ce n'est pas à cause de la dîme. Bon, peut-être ils l'ont apporté, peut-être ils ne l'ont pas apporté. Ça, on ne le sait pas. En fait, le Seigneur, il est en train de parler des tâches, du service qu'il devait faire. En fait, il les a bénis avec certaines bénédictions physiques pour qu'ils bâtissent cette maison. Mais ils ont utilisé ces bénédictions sur eux-mêmes et ils ont compté sur des gains futurs en essayant de jouer sur ça pour s'enrichir. Et finalement, ils se sont trouvés un peu en retard, peut-être, pour faire tous leurs paiements, pour leurs factures la première année, un peu plus l'année prochaine, jusqu'à ce que l'Éternel est en train de les attirer le regard pour qu'ils se regardent vers le haut. C'est quelque chose qui nous manque de nos jours. Souvent, lorsqu'on se trouve dans une situation un peu adverse, on cherche toutes les solutions possibles, physiques. Il me manque de l'argent, je cherche un deuxième travail. Ou, je prête de l'argent de quelqu'un d'autre. Ou je fais ceci, ou je fais cela. J'essaie avec mes moyens d'économiser, de faire ce que je peux. Bon, toutes ces choses-là, ce sont des idées, certes, mais est-ce que vous avez réfléchi d'abord à Dieu? Lorsque ces choses arrivent, est-ce que ce n'est pas Dieu qui devait avoir notre première attention, notre première prière? Est-ce qu'il est possible que nous avons oublié quelque chose? Que nous avons laissé la maison de Dieu un peu dans le désordre? Par moyen spirituel, mettons les choses dans l'actualité. Où est la maison de Dieu aujourd'hui? Nous sommes la maison de Dieu, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est en train, comme nous avons vu en 1 Pierre, de nous construire, nous, des pierres vivantes, pour faire une grande édifice où habite son Saint-Esprit. Et chaque personne, chaque pierre a une place à remplir. Sinon, c'est comme il y a un grand trou. Et Dieu vous a appelé à faire ça. Mais si nous nous occupons de nous-mêmes sans penser à Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas le meilleur de ce que Dieu veut pour nous. Et parfois, pour nous attirer l'attention, surtout si Dieu nous a parlé spécifiquement de quelque chose que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas, souvent, il peut arranger les choses pour que nous nous réveillions, pour que nous remettions au travail. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, autant que l'Église n'est pas le pasteur. Mais nous sommes l'Église, si nous sommes en Jésus-Christ. C'est lui la tête et c'est lui qui nous construit. Alors, comment est-ce que ça a été reçu? Verset 12, Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Yahotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agée, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. âgé messager de l'Éternel dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, « Moi, je suis avec vous. » L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Yehotzadak, le souverain sacrificateur, l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils virent se mettre à l'œuvre dans la maison de Dieu des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 12e année du roi de Darius. Ils se remettent au travail. Et c'est l'Esprit Saint qui les aide à le faire. C'est un petit peu à l'image de Jésus avec l'homme paralytique. Lorsqu'il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus ne se moque pas de cet homme paralytique, mais il lui donne tout ce qui est nécessaire pour le guérir. Mais il faut que cet homme obéisse à la parole de Dieu. Et c'est le moment où il obéisse à cette parole qu'il entend et se lève, qu'il reçoit la force de se lever. Mais tant qu'il reste assis en désobéissance, il reste assis. De la même manière, ici, lorsque Zorobabel entend la parole et le met en pratique, vous avez vu dans le texte, l'Esprit les saisit et il les aide parce que l'Éternel est avec eux. Et c'est la même chose donc avec nous lorsque nous obéissons à la parole qu'il nous donne. Une parole, et ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi lorsque Dieu il vous parle, peut-être, je ne sais pas, d'une certaine péché dans votre vie. Et il vous le montre. Et il veut donc que par sa force à lui, que vous l'arrêtiez. Mais il faut que vous dépendiez de sa force pour le faire. Et que vous l'aviez marché par sa force. De la même manière que peut-être il vous a donné quelque chose. Il faut quelque chose à faire pour servir. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fait pour vous, parce qu'une autre personne n'a pas été fait pour vous, n'a pas été appelée à le faire. Et s'ils le font, ben certainement ça ne serait pas aussi bien, parce que Dieu vous a appelé. Bien sûr, tout se fait en ordre, Dieu n'est pas le Dieu d'anarchie, mais lorsque vous obéissez, il vous donne ce qui est nécessaire pour le faire. Tant que vous n'obéissez pas, vous n'aurez pas cette onction pour obéir. Et puis, chapitre 2, deuxième prophétie, le 7e mois, le 21e du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Maintenant, nous sommes pour cette deuxième prophétie au plein milieu de la fête des tabernacles. Regardez ce qu'ils disent. « Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yahoutzadak, le souverain sacrificateur et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? » Alors, de quoi il parle? En fait, dans le livre d'Esdras, lorsqu'ils ont construit les fondations, les jeunes, en le voyant, ils étaient tellement contents. Ils étaient aussi en plein milieu de la fête. Ils criaient, ils chantaient, et c'était merveilleux. Mais les personnes âgées, en voyant ces mêmes fondations, oh, ils étaient déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils pensaient à ce magnifique temple de Salomon qu'ils ont vu. Et aussi fort que les jeunes criaient, dansaient Ils louaient le Seigneur, les autres pleuraient, se lamentaient. Et nous lisons seulement en Esdras que le bruit fut entendu partout, mais le bruit c'était une telle cacophonie qu'on ne pouvait pas distinguer entre ceux qui étaient joyeux et ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est un peu comme Dieu est silencieux pendant un certain moment. Il ne dit pas grand-chose. Mais en Agé, nous avons la réponse. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et c'est comme il dit, d'accord, comment est-ce que vous voyez à vos yeux, comparé aux gloires du passé? C'est rien, n'est-ce pas? Alors, regardez, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Autrement dit, Zorobabel, n'écoute pas ça. En fait, c'est une bonne conseil lorsque vous êtes tenté de se plaindre parce que ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas aussi bien de ce que vous imaginez le passé. Parce qu'on imagine toujours que le passé est mieux que c'était en réalité, d'abord. Et deuxièmement, Dieu est en train de faire quelque chose ici, maintenant. Et si vous êtes tellement fixé sur le passé et la gloire du passé, qu'est-ce que vous allez rater? Zorobabel, ou toute personne qui veut se lever et travailler, écoutez cette parole. Fortifie-toi. N'écoutez pas ces pleurs. Oracle de l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils d'Yotzadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Même ceux qui se sont plaints il y a longtemps quand ils ont construit les fondations. Même vous, arrêtez de vous plaindre sur le passé. Fortifiez-vous, ils disent. Et travaillez, oracle de l'Éternel. Travaillez. Pourquoi? Comment travailler? Par la même chose, car moi, je suis avec vous. Voilà comment il faut travailler. Oracle de l'Éternel des armées. Avec la parole que je vous ai donnée, quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte. Car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations, ou le désiré des nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi. Oracle de l'Éternel des armées, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alors, vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'imaginez pas, il dit. Il faut continuer à bâtir ce temple, parce que même si les fondations... Même si ce n'est pas grand-chose à vos yeux, l'Éternel a promis qu'il y aurait une plus grande gloire dans ce temple. Et pourquoi? Parce que le désir des nations sera là et il remplirait de sa gloire. Selon le Talmud babylonien, le deuxième temple manquait des choses que le temple de Salomon avait. D'abord, il manquait l'arche de l'Alliance. Deuxièmement, il manquait l'Urim et le Thummim. Troisièmement, il manquait la présence glorieuse de l'Éternel. Justement, quelle était la gloire aux yeux du monde du deuxième temple? Les embellissements de Hérode. Je parle du monde, hein? c'était un des merveilles à voir du monde antique. Parce que Hérode, pendant 40 ans, il a fait des choses étonnantes, incroyables. Mais est-ce que ça impressionne Dieu? Est-ce que Dieu était là-haut en train de dire, ah, wow, bon, même s'il est meurtrier, même s'il il a assassiné ses propres fils, bon, quand même, c'est beau, hein? Est-ce que ça impressionne Dieu? Non. Ce n'était pas la gloire du deuxième temple aux yeux de Dieu. Non, la gloire du deuxième temple, c'était Jésus-Christ qui est entré. Parce que c'est là, ils disent, il a donné la paix. Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu le Père par son sacrifice sur la croix. Vous voyez, eux, ils pensaient bouger des pierres, mais ils participaient à une œuvre mille fois infiniment plus grande qu'ils étaient capables d'imaginer. De la même manière, nous sommes une petite église, nous sommes en train de construire une église. Et peut-être, vous avez l'impression de simplement bouger quelques pierres. Mais vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Et vous n'avez aucune idée de la grandeur de tout ce qu'il fait de ce côté du paradis. Fortifiez-vous et continuez dans l'œuvre à laquelle l'Éternel vous a appelé. Puis le troisième prophétie, le 24 du 9e mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pain de son vêtement de la chair consacrée, qu'il touche avec son vêtement du pain et un mets du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs répondirent non, parce que c'est souillé. Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par contact d'un cadavre et qu'il touche toutes ces choses, deviendront donc elles impures? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprend la parole, tel est ce peuple. Telle est cette nation devant moi. Encore, l'Éternel les appelle à réfléchir sur où ils sont et qu'est-ce que font leur lassitude vis-à-vis de lui et de son service. Comme il dit en Jacques, si quelqu'un sait le bien qu'il doit faire, il ne le fait pas, c'est le péché, c'est du péché. Si on sait le bien qu'on doit le faire et on ne le fait pas. Et ainsi, ils se rendent impurs. Oracle de l'Éternel, telles sont les œuvres de leurs mains. Qui m'offre là est impur. Réfléchissez maintenant. J'aime bien ça parce que ces prophéties, c'est un rappel que Dieu, il nous a donné un cerveau. Il veut que nous l'utilisons. Que nous réfléchissons à ce que nous voyons. Que nous réfléchissons à notre vie. Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qui se passe autour? À ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait un tas de 20 mesures, il n'y avait que 10. Et quand on venait au pressoir pour puiser 5 cuvées, il n'en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par le niel, par la grêle, ainsi tout le travail de vos mains. Mais vous n'êtes point venu vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la sémence au grenier? même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour qu'ils s'en souviennent. Peut-être aussi une autre raison. Ils venaient de célébrer la fête des tabernacles. Et là, c'est bien. Vous connaissez le scénario. Vous êtes dans l'assemblée. Tout est bien. Il y a donc les festivités. Et puis, il y a cet contact réel qu'on a avec le Seigneur. Et il nous révèle des choses. Et on s'engage. On a toutes les idées bien faites. Et puis, on rentre à la maison. Parce que c'est la fin de ce moment. Et puis, ah oui, nous voyons, ouais, il faut réparer ça. Et puis, ah oui, il faut retourner au travail, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et une semaine, deux semaines, trois semaines, et tout ce qu'on a pris, ce merveilleux contact qu'on avait, se perd rapidement. Or, Dieu, il les rappelle que c'était réel, que ce n'était pas quelque chose qu'ils ont inventé. Qu'ils réfléchissent, qu'ils se rappellent. Rappelez-vous, parce que non, c'est vrai, c'est réel, c'est le moment. Et pour qu'ils sachent que ce n'est pas un hasard, je vous le dirai, à partir d'aujourd'hui, il leur donne la date, le 24e jour du 9e mois, à partir de ce jour-là, il dit, vous saurez que la bénédiction vient. Dieu fait souvent des choses pour qu'il n'y ait aucune question. Pourquoi? Pour que nous lui rendons toute la gloire qui lui est due, et pour que nous en souvenions. Il est important pour eux de se rappeler de ces choses. Il est important pour eux aussi de savoir d'où vient leur bénédiction, d'où vient tout ce dont ils avaient besoin. Tout comme nous. Parce que si nous aussi, nous tombons dans cette même idée, l'oubli et aussi le découragement. Mais lorsque nous voyons que Dieu nous bénisse, il est important de le remercier, de lui rendre gloire, l'honneur qui lui est dû. Enfin, la quatrième prophétie est personnelle. C'est pour cet homme, Zorobabel. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Dis-lui, j'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes et des nations. Je renverserai le char et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas. Chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. Un sceau, c'est comme souvent en forme de bague, ou si un roi, un dignitaire, il envoie une lettre ou il fait une proclamation, il fonde un peu de cire et il le met enfin, et puis il met son bague comme un tampon. C'est sa signature pour que tout le monde le sache. Il le garde toujours avec lui. Dieu a dit qu'il fait de Zorobabel ce tampon. Mais d'abord, il renverserait les trônes et des royaumes. En fait, cette prophétie-là, c'est deux choses. D'abord, c'est un encouragement pour un homme certainement abattu. C'est fatigant de travailler déjà dans un travail, des travaux physiques, mais de travailler aussi avec des gens qui le résistent et qui ne veulent pas travailler. Le pauvre homme, il est épuisé. Et c'est pour ça, justement, que Paul, il exhorte les gens de ne pas épuiser, justement, les responsables de l'Église. Mais pour Zorobabel, surtout, c'est un encouragement pour dire, mais Zorobabel, je vais ébranlerai toutes ces choses. Bah, ne t'inquiète pas, continue. Je ferai des grandes choses pour toi. C'est quelque chose de personnel pour lui parce que Zorobabel, il était conscient du fait qu'il est dans la lignée royale. Il savait que dans sa généalogie, il y avait tous les rois de Juda. Et ça amène directement vers David. Il le savait. Et puis, il se voyait maintenant, pas roi, mais un gouverneur qui dirige une petite bande de gens qui travaillent nuit et jour et qui se battent contre les gens qui croient pas. Et ben vous allez lire en Esdras tout à quoi il devait faire face. Il voyait ces choses et ça serait très facile de pas seulement douter, mais tout simplement se renier à tout ça. Alors l'Éternel lui fait rappeler, encore, il y a quelque chose de plus grand. Je ferai de toi mon signet, mon sceau, parce que de toi vient le Messie, parce que tu es dans la généalogie de David. Et lisez en Matthieu chapitre 1, vous avez la généalogie de Jésus-Christ et vous allez trouver le nom de Zorobabel au plein milieu. Voyez, Dieu, il peut nous donner un encouragement spécifique. Et parfois, il est pour Zorobabel, pour que Jésus vienne, il fallait aussi que les nations soient ébranlées. Il fallait que les Perses soient chassés et que les Grecs viennent. Comme il est dit à Daniel, il faut que les Grecs soient chassés pour que les Romains viennent. Notamment pour qu'ils soient crucifiés. Mais il y a d'autres choses aussi pour que César aussi donne un décret pour que Joseph et Marie soient à Bethléem pour que Jésus soit né à Bethléem. Enfin, Dieu s'est servi des Romains beaucoup, finalement. Et c'est un rappel à nous, comme à pour Zorobabel, que même si les choses telles que nous les voyons aujourd'hui ne semble pas tout à fait conforme à ce que nous savons, selon la parole de Dieu, qu'ils doivent être. Ben, pour Dieu, ces petits détails, même si pour nous ce ne sont pas des petits détails, mais ce sont des grandes choses, ben, Dieu, il va s'arranger, il va faire les choses exactement comme il va le faire. Il n'y a aucune raison pour des inquiétudes. Dieu va s'occuper de sa parole. Et il va l'accomplir à 100%, à la lettre. C'est comme Jésus a dit, la terre et les cieux, ils vont partir, mais et sa parole demeure. Et nous pouvons garder notre foi sur ça. En conclusion, avec chaque parole, il y avait un moment de le recevoir et d'ajouter sa foi. Si au début, ils sont rejetés ou fermés les oreilles, la prophétie d'Agé serait un seul paragraphe. Mais puisque ils ont écouté avec foi et s'ils sont mis à l'œuvre, ça s'allonge. Et puis, il y a Agée chapitre 2. Et puis, chapitre 2 commence à grandir parce qu'il y a d'autres paroles aussi. En fait, le plus que nous écoutons et nous mettons en pratique la parole de Dieu, le plus qu'il nous donne. C'est le principe que Agée nous donne. Et si le Seigneur permet que nous soyons plus âgés dans la foi aussi, nous allons le faire parce que, en fait, nous appliquons sa parole dans notre vie. Il répand son esprit et c'est comme ça que nous ferons des grands exploits. Grâce à lui et toute la gloire à lui. Prions.